Le dévoilement de Dieu numéro 189. Alpha, Oméga, même parole. Même esprit. Même nature. Même vie. 27 décembre 2020. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous prendrons comme texte 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et restons debout, pendant que nous lisons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous n'aimez-vous-l'on pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous n'aimez-vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ouvrons nos Bibles dans Galates, au chapitre 1 et lisons à partir du verset 1, au verset 9. Galates 1, 6-12. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Maintenant, ce n'est pas autre comme si c'était un évangile totalement différent, mais le mot grec, estertro, et cela signifie d'une nature différente. Maintenant, vous dites, comment cela pourrait-il être le même évangile et pourtant, d'une nature différente? Laissez-moi vous donner un exemple. Je vous donne la même phrase, seulement l'une d'elles, je la termine avec un point d'exclamation, pendant que nous lirons la même phrase avec un point d'interrogation. Ok, lisons, tous, ceux qui croient le message, sont des vrais croyants. Ok. Ainsi nous lisons une déclaration et cette dernière se termine avec un point d'exclamation. Le point d'exclamation est utilisé pour mettre de l'accent sur une chose. Il est clair que vous déclarez que tous les croyants qui prétendent croire le message sont des vrais croyants. Car c'est ce que le point d'exclamation nous amène à croire. C'est une déclaration définitive et doit être crue, comme exprimant ce qu'elle dit. Un point d'exclamation, qui est une forme de ponctuation, est utilisé particulièrement après une interjection ou exclamation, pour indiquer une déclaration avec force ou pour montrer une insistance. Cela permet de clarifier le sens de la phrase. Cela ajoute un aspect émotionnel à ce qui est dit. Maintenant, l'opposé de cela serait un point d'exclamation, connu comme un point d'interrogation, à une phrase, on enlèvera toute insistance forte des mots qui s'y trouvent, ainsi, remettant en question la phrase, ou la rendant incertaine ou non claire. Ainsi, quand nous lisons la même phrase, avec un point d'interrogation, nous lirons comme suit, tous ceux qui prétendent croire le message, sont-ils des vrais croyants? Remarquez que cela apporte du doute dans la phrase. Ainsi, vous pouvez lire la même phrase et en fonction du point de ponctuation que vous utilisez, vous pouvez soit montrer un soutien total et croire à la déclaration, soit une question de la validité de la phrase. Raison pour laquelle les Écritures parlent que ceux qui font l'écho du Fils, Néhémie feront pas seulement l'écho de la parole que le Fils a déclaré, avec leur bouche, mais ils feront aussi l'écho dans leur vie, de la vie qu'il a vécue. Ainsi, nous lisons dans 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le mot a été traduit du mot grec écho. Maintenant, laissant le mot tel quel, la phrase serait lue différemment, avec un sens plus clair. Celui qui fait l'écho du Fils, fait l'écho de la vie, et celui qui n'est mis fait pas l'écho du Fils, n'est mis fait pas l'écho de la vie. Et nous lisons dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'est mis croit pas au Fils n'est mis verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Remarquez, non seulement que ceux qui n'est mis font pas l'écho du Fils, n'est mis font pas l'écho de la vie, en fait, ils n'est mis voient pas la vie, mais il dit aussi qu'ils verront la colère de Dieu. Ainsi, en revenant à ce que Paul nous dit dans Galates 1:6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Maintenant, il n'est mis s'agit pas d'un autre, comme si c'était un évangile complètement différent, mais le mot grec, sestertro, et cela signifie d'une nature différente. Et sestère exactement, ce que Paul dit au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, ou qu'il n'estère pas un allo. Remarquez, ici, le mot trester traduit par un mot complètement différent, de ce que nous avons vu au verset 6 et ce mot ester allo, parle d'être entièrement différent. Et alors, il nous dit pourquoi. Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ainsi, nous voyons la raison, ester que ce n'ester pas un évangile complètement différent, pourtant c'ester un évangile d'une nature différente. Parce que c'ester pervertit, à partir de ses intentions et significations originales. Et ce n'ester pas en prononçant des paroles complètement différentes, mais en utilisant différentes ponctuations, comme je l'ai illustré. Ainsi, l'évangile ou la bonne nouvelle devient une perversion, comme regardant le ballon, se dirigeant vers le poteau, mais juste avant qu'il n'ait mis traverse la ligne du but, cela vire à côté. Ainsi, l'évangile devient transmuté, ou corrompu dans son message et dans ses compréhensions. Raison pour laquelle, il est si important de Néhémie dire que c'est que le messager a dit, et pas seulement ce qu'il dit, mais le dire avec la même expression qu'il l'a dite, ce qui signifie d'utiliser la même ponctuation qu'il a utilisée. Raison pour laquelle, il est si important que la personne qui fait votre travail de traduction comprenne assez bien la langue, afin qu'il distingue aussi la ponctuation qui a été utilisée et le but. Car autrement, les mêmes paroles peuvent être traduites dans un sens qui serait complètement opposé du contenu. Et ainsi, l'apôtre Paul clarifie ses intentions en nous donnant cette illustration. Au verset 8, il dit « Mais, quand nous-mêmes, nous signifie-vous, ou moi-même, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Maintenant, quand il dit, il s'inclut lui-même dans ce qu'il déclare ici. Ainsi, il dit ici, que ça soit, moi ou vous, ou quelqu'un d'autre, qu'importe si un ange du ciel disait quelque chose de contraire à ce que j'aurais déjà dit, qu'il soit maudit. Ainsi, l'ange d'Apocalypse, au chapitre 10, 1 ou 10, 7, Néhémie peut pas prêcher une chose contraire à ce que l'apôtre Paul avait déjà prêché, sinon, il serait maudit. Maintenant, s'Esther une déclaration forte? Parce que si s'Esther faux, alors qu'Esther qui Esther encore faux? Dans la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul le répète encore au verset 9. Ainsi pour mettre les choses au point. 9 Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ainsi, nous voyons qu'il y a une malédiction pour celui qui prêche l'évangile que le prophète messager, Paul, n'a pas prêché. Et remarquez qu'il inclut même l'ange d'Apocalypse 10, 1 et 10, 7. Parce qu'il est interdit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ainsi, quand les gens disent que William Branham, Esther le plus grand prophète ou le plus grand messager qu'il y a eu, ils font montre d'une vraie lacune quant à la compréhension de la Bible. Et ainsi, ils montrent qu'ils sont charnels car l'apôtre Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 12-13. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollo. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Christ est stérile divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou Esther ce nom de Paul que vous avez été baptisé? William Branham est stérile mort pour vous? Non, il n'aimait il l'a pas fait. Il était un serviteur du seul Dieu, qui était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Esther ce que Paul prêchait, et c'est Esther ce que William Branham a enseigné aussi. Comme frère Branham dit dans sa prédication, essayant de rendre à Dieu, un service 18 juillet 1965 MP, 50. Vous les entendez parler du grand untel et d'un autre grand untel. Notre grand. Néhémie faites jamais cela. Il n'y a pas de grand parmi nous. Il n'y en a qu'un qui soit grand. Et c'est Esther Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs. Peu m'importe si vous êtes pasteur d'une église de 5 personnes. Cela Néhémie vous fait pas petit. Cela fait de vous un frère. Vous voyez? Si vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Peu m'importe quoi ou comment vous Néhémie, devenez pas petit. Dieu n'a pas de petits-enfants et de grands-enfants. Il a simplement des enfants, et ils sont tous pareils. 104 Remarquez, Dieu lui-même Esther descendu des palais d'ivoire de la gloire pour devenir l'un de nous. Maintenant, qui est Esther grand? Il a pris. Il n'est Esther pas venu ici-bas pour prendre la forme d'un sacrificateur, mais plutôt d'un serviteur pour laver l'argile même qu'il avait créé, les pieds de ses apôtres dans le. Maintenant, qui est Esther grand? Et il dit aussi dans sa prédication, il y a ici un plus grand que Salomon 5 juin 1963 p. 51. Il n'y a pas de grand parmi nous. Comment pouvez-vous avoir la foi? Quand devez-vous respecter les uns, les autres? Nous sommes tous un, en Jésus-Christ. Il n'y a pas de grands hommes et de petits hommes. Nous sommes tous pareils. Nous sommes enfants d'un seul Père, et nous sommes ses enfants. Raison pour laquelle, je pense que c'est très important de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'alors, cela fait de vous, un frère, et cela vous permet de comprendre ce qu'Esther le message. Parce que si vous Néhémie comprenez pas ce qu'Esther le message, alors vous finissez par vous arrêter au messager et non au Dieu que le messager servait. Alors, vous commencez à diviser et aggraver le message, comme Satan tient à ce que vous le fassiez. L'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens 3, 4. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul. Et un autre, moi, d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Et cela va montrer simplement que ce qui oppose un ministre contre un autre, c'est Esther simplement charnel. et opposer le messager à un véritable quintuple ministère que Dieu a placé dans l'Église. Esther charnelle. L'apôtre Paul nous a avertis de Néhémie dire que ce qu'il a dit est le prophète de Dieu. Pour ce dernier âge, nous a dit qu'il n'a enseigné que ce que Paul a enseigné. Il s'est assuré que nous l'ayons compris. Dans sa prédication, l'identification 23 janvier 1963 p. 95, il a dit, dans la vision que j'ai vue, il y a pas longtemps, de ces gens-là, j'ai posé la question. Vous lisez cela dans le digest. L'article réservé aux hommes d'affaires. Ils ont dit, pourquoi? J'ai dit, Paul doit-il? A-t-il dit, oui, monsieur. J'ai dit, je me suis tenu sur la même chose, oui, monsieur, dit à la même chose. Et dans la prédication, les fils de Dieu, manifesté 18 mai 1960 p. 126, il dit, maintenant, si cela était vrai, en ce jour-là, il a dit, eux, m'ont dit, on dit, Jésus viendra à toi, et vous nous présenterez à lui, une vierge chaste, jugée par la parole que tu leur as prêchée. Et regardez, si je vous prêche, ce que Paul avait prêché à son église, si son groupe entre, le nôtre aussi entrera. Parce que nous avons la même chose. Amen. Ainsi, tout ceci parle de celui qui est Esther grand, et que cette grande église, Esther une bande de non-sang. Il n'y a qu'un grand et c'est Esther Dieu. Et ce n'est Esther pas une grande église. C'est Esther un grand Dieu dans son église. C'est Esther modeste, comme pensée, pourtant ce qui la rend grande, Esther Dieu. Point. En fait, frère Branham dit la même chose dans sa prédication, le don enveloppé 25 décembre 1960 p. 16. Comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas la grande église, c'est Esther le grand Dieu dans l'église. Ce n'est pas la grande, sainte montagne, c'est Esther le grand Saint-Esprit, qui se tenait sur la montagne. Ce n'est pas le saint homme, c'est Esther le Saint-Esprit dans l'homme. Et dans sa prédication, encore une fois 17 novembre 1963 p. 59, il dit, si vous pouvez juste vous arrêter comme Samson l'a fait et penser un seul instant, au fait que nous sommes censés être conduits par la Bible de Dieu. Non pas quelque chose de grand, non pas un départ, se joindre au John, mais un petit groupe des gens, humbles, respectueux, remplis de l'esprit, pas brillants, luisants. Hollywood brille, l'évangile lui. Voyez-vous, nous voulons quelque chose qui brille, les plus grandes églises, que nous avons jamais eues. Il serait mieux, si nous nous tenions sur aller, dans un magasin. Et avoir l'Esprit de Dieu sur nous, encore. Esther exact. Remarquez, et ainsi, l'apôtre Paul dit, 10-12 et maintenant, Esther c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Esther ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je n'ai serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai mis ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et qui Esther descendu dans 1 Thessaloniciens 4, avec un cri, qui Esther le message, c'était Dieu, qui l'a fait. Ainsi, s'en Esther assez. Faisons le coin, pour entrer dans le message de ce matin. Maintenant, ce matin, nous allons commencer à clôturer cette merveilleuse série de la prédication de frère Branham, le dévoilement de Dieu et je pense que cela pourrait nous prendre quelques mois de plus, parce que c'était une prédication merveilleuse de frère Branham, et il a dit qu'il y a beaucoup des choses qui sont exceptionnelles pour nous, en cette heure. Et je pense qu'une fois que nous finissons ce qu'il dit, nous rentrerons en arrière pour réviser ce que nous avons appris ces dernières années, à travers cette prédication, depuis que nous avons commencé notre étude le 4 mars 2018. Ainsi, je pense m'arrêter quelque part, dans les prochaines 12 prédications, qui va nous amener autour de mars 2021, c'est-à-dire 12 semaines passées, pour ce qui nous a pris environ 3 années pleines, à décortiquer et à digérer, ce qu'il a dit dans cette seule prédication. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui disent que vous n'avez pas besoin d'un quintuple ministère, cette déclaration est antichrist, parce que cela vous éloigne de la parole de Dieu que Paul a prêchée. Parce que l'apôtre Paul, Esther celui qui nous a enseigné sur le quintuple ministère de Dieu, comment Dieu a envoyé et ordonné dans l'Église 5 offices, dans le but de faire certaines choses, amenant l'Église à la perfection, ce qui signifie l'équiper afin d'être prêt pour l'enlèvement du peuple de Dieu. Et il a dit que Dieu agira dans son Église, à travers ses 5 offices, jusqu'à ce que les élus soient pleinement équipés et complètement matures et prêts pour l'adoption. Maintenant, regardant autour du message et à travers la chrétienté, je n'y vois simplement pas des gens qui sont pleinement matures, beaucoup moins, sont pleinement matures en Christ. Et je n'y le dis pas, en pointant les autres du doigt, parce que quand je le dis, je peux avoir un doigt pointé et 3 doigts points vers moi-même. Je souhaiterais être pleinement mature et complètement mort en moi-même, parce qu'alors, je saurai comment mieux maîtriser les critiques. Mais je sais que je n'y suis pas encore complètement mort en moi-même et ainsi, n'y suis pas pleinement équipé et mature, comme il a dit que je le serai. Ainsi, je dépends de Dieu, qui crée en moi le vouloir et ensuite le faire, selon son bon plaisir et ainsi, peut-être si je peux mourir en moi-même totalement, il pourra avoir la prééminence pour refléter pleinement son Fils en moi. Avant ce moment, nous devons courir vers la carrière placée devant nous. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et nous savons que William Branham a confirmé ce que Paul disait, et nous savons que tout ce que l'apôtre Paul a enseigné, William Branham aussi l'a enseigné de la même manière, et il nous a même dit qu'il n'avait jamais dévié de ce que Paul enseignait. Et Paul nous a dit que dévier d'un seul mot, de ce qu'il a prêché, apportera la malédiction. Nous ferons mieux de nous attacher à ce qu'il nous a enseigné et laisser que les paroles de tout homme, être un mensonge mais celles de Dieu, être vraies. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, est que les gens n'y comprennent pas, c'est-à-dire ce que ce message est. Ce n'est plus le message de William Branham, ni le mien ou le vôtre. En fait, c'est le message de Dieu, parce que selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, c'est le Seigneur, lui-même, qui descend avec un cri, le prophète de Dieu, confirmé, nous a enseigné, que le cri, c'est le message. Ainsi, si Dieu est descendu avec le message, alors ce n'était pas le message de William Branham, pour commencer. C'était le message de Dieu. C'est seulement devenu le message de William Branham, quand il l'a entendu, l'a reconnu et ensuite, a agi en conséquence. Et quand il a agi, il a dit, juste ce que Dieu a dit. Et en disant ce que Dieu dit, c'est-à-dire dire ainsi, dit le Seigneur, tant que vous déclarez ce que le Seigneur a déjà dit. Et une fois que les gens ont entendu ce dont William Branham a fait l'écho? Alors, ceux qui l'ont reçu, et l'ont reconnu, et ont agi dessus, ce message devient pour eux, leur message. Laissez-moi vous le montrer dans l'Écriture. Et dans le processus, regardons à ce processus de vivification de la parole de Dieu, en vous. Nous savons que la parole de Dieu, est une semence. Marc 1-20, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne m'y suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es là, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Par conséquent, vous devez l'entendre, ce qui signifie, nous devons le comprendre. Parce que William Branham nous a enseigné qu'entendre signifie comprendre. Dans sa prédication, entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu 21 février 1960 p. 18. Premièrement, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Ensuite, le croyant l'entend, la reconnaît, et agit dessus. L'homme charnel en écoutera le son, mais jamais. Entendre signifie la comprendre. Regarder à quelque chose, mais voir cela, c'est de le comprendre. À moins qu'un homme né soit né de nouveau, il n'est émis peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. 2. Ensuite, nous devons la recevoir, et le mot utilisé, Esther paradéchomet signifie accuser réception comme propriétaire. Ce mot Esther composé de deux mots, para, qui signifie à côté de, avec ou près, et le mot de chomet, qui signifie recevoir, accepter, prendre comme pour soi. Ainsi, quand nous sommes vivifiés par la parole de l'heure, et recevons la vie Dieu, nous sommes ainsi vivifiés à la révélation de l'heure, et cela devient notre propre révélation, de notre propre être aussi. Nous ne regardons pas au message, comme quelque chose que Dieu a fait pour les autres, mais ce qu'il est venu faire pour moi-même. Ce n'est pas simplement le message de frère Branham, ce n'est pas le message de Livelle, mais c'est mon message, maintenant. Cela m'appartient. Et si vous êtes vivifié par cela, le message vous appartient. Mais vous devez l'entendre, le reconnaître et entrer dedans, alors vous en prenez possession, et cela devient vôtre. C'est votre message maintenant, appliquez-le. Il nous était dit au jour de la Pentecôte, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Ainsi, ce n'est plus pour quelqu'un d'autre, la promesse est en vous. Elle est maintenant vôtre. Ainsi, la parole est la donatrice de la vie. Cela nécessite l'Esprit de Dieu en vous pour apporter la vie de la parole en vous. Parce que la parole est une semence que le Fils de l'homme est sorti, semé. Et cela apporte la vie dans votre corps mortel. Elle vous vivifie au jour et à l'heure et au message de votre jour. Ainsi, vous devez l'entendre, ce qui signifie que vous devez le comprendre. Et une fois que vous le comprenez, alors, vous devez le recevoir, ce qui signifie que vous devez le prendre et le recevoir comme vôtre. Et une fois que vous l'avez, vous devez porter des fruits. Et quel est le fruit? C'est l'enseignement de la saison. Ainsi, porter des fruits signifie enseigner. Le message devient votre message, et vous devenez un donateur de fruits, un donateur de vie de la parole. Et vous l'enseignez par ce que vous dites et vous faites, et votre vie crie plus fort que vos paroles. William Branham dit dans sa prédication, la puissance de Dieu pour transformer 11 septembre 1965. P. 111. Dieu, par une semence de sa parole. Et il n'y a qu'une seule chose pour vivifier la parole. Et c'est l'esprit, car c'est le donateur de la vie de la parole. Et quand la vie de la parole rencontre la vie de l'esprit, cela manifeste tout ce que la semence est. Maintenant, frère Branham dit ici, quand la vie de la parole rencontre la vie de l'esprit, cela manifeste tout ce que la semence est. Voici exactement vos trois points. 1. Vous l'entendrez, signifie vous le comprendrez. 2. Vous le recevrez joyeusement, signifie que vous le garderez comme pour vous, même. 3. Vous porterez le fruit de la semence, qui est la manifestation de la révélation pour la saison. Signifiant que vous allez déclarer l'enseignement aux autres, d'une certaine manière, soit à travers le fruit de vos lèvres ou de la vie que vous vivez. Le message devient votre message et vous devenez donateur de fruits, un donateur de la vie, par la parole. Dans sa prédication, la voix pourvue par Dieu, pour l'adoration 28 novembre 1965 M225, maintenant, les luthériens veulent s'y prendre d'une certaine manière, en se joignant à l'église luthérienne. Les méthodistes veulent y entrer par des cris. Les pentecôtistes voulaient y entrer en parlant en langue. Cela n'y marchera pas. Voyez-vous? Non, ce sont des dons, ainsi de suite. Mais 1 Corinthiens 12 dit, par un seul esprit l'esprit de Dieu, qui est le donateur de la vie, de la parole, la semence, pour confirmer cette semence pour cette saison. Voyez? Maintenant, Comment est-ce qu'une semence est-elle confirmée? Par la manifestation de la vie à l'intérieur. En d'autres termes, elle produira des fruits de ce qu'est-elle la vie de la semence. Un figuier porte des figues, un pommier porte des pommes. Et un fils de Dieu portera la vie Dieu, et Dieu est-elle la parole. Ceci a été apporté quand le prophète de Dieu a dit dans sa prédication, la parole parlait Esther la semence originale 18 mars 1962 p. 89. Les œuvres que Jésus a faites. Remarquez que frère Branham se réfère à Jean 14, 12. Ici, si un homme a la semence de Dieu en lui, avec l'Esprit de Dieu qui arrose cette semence, les mêmes œuvres que Jésus, qui avait été manifesté en Jésus, puisqu'il était la semence originelle de Dieu, sa mort vous ramène à la semence originelle de Dieu. Et si le même esprit qui était en lui est en vous, alors les mêmes œuvres seront manifestées. 176 Vous n'y croyez pas ça? Très bien. Prenons Jean 14, 12. Vous dites, je suis un croyant, frère Branham. Bien sûr que je suis un croyant. Très bien. Je vais voir si Jésus vous appellera un croyant, voir si la parole de Dieu vous appelle un croyant. En vérité, absolument, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce? La même semence. On est émis peut empêcher. Comment pouvez-vous planter du blé ici, et du blé ici, et dire, je vais récolter des concombres ici, et du blé ici? Vous ne le pouvez pas. Le seul moyen pour vous de récolter des concombres, c'est de planter des concombres. Si vous l'hybridez, alors ce ne sera pas un concombre. Ce sera un hypocrite. Pas vrai? Ce sera un hypocrite, mes amis. Il faut absolument absolument que je le dise. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni un concombre, ni ce avec quoi vous l'avez croisé. C'est un hybride, et c'est un mauvais produit. Il est mort en soi, et il n'est ni peut plus se reproduire. Il est mort, déjà là. Se reproduire. Aller plus loin, il n'aimait le peut pas. Pour lui, c'est la fin. C'est tout. Mais si vous voulez avoir un concombre, commencez avec un concombre. 178 Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Vous voulez avoir une vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole. Ensuite, laissez. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans votre jardin. 179 Alors, maintenant, qu'en est-il de votre pluie de l'arrière-saison? Vous voyez où ça va se retrouver? Après quelque temps, n'est-ce pas? Ça va se retrouver sur ces coloquintes sauvages qu'il y a eu. Et il pensait que c'était des courges, ou ceux de l'école des prophètes, là-bas. Cette dénomination qu'ils avaient formée. Ils ont cueilli des coloquintes sauvages, et ils pensaient que c'était des pois. Enfin, passons. 180 Alors, les œuvres qui se manifesteront en lui, ce sont les mêmes, puisque c'est la même parole semence de Dieu. Le Fils de Dieu était sa semence qui a servi d'exemple, et ce que sa vie à lui a été, une fois que l'Esprit a été répandu sur lui, après qu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit est revenu sur lui, la vie même qu'il a produite, eh bien, ce même Esprit, l'arrosage du Saint-Esprit, produira la même espèce de vie? Qui fera la même chose que ce que lui a fait? Si c'est-elle la même semence? Une semence de fils de Dieu produira une semence de fils de Dieu. Maintenant, cela nous conduit au prochain paragraphe, dont frère Branham parle, dans cette prédication, que nous étudions, le dévoilement de Dieu, alors qu'il commence à clôturer sa prédication. Le dévoilement de Dieu 176. Je termine en disant ceci, parce qu'il est midi moins 5. Je dirai seulement ceci. J'ai encore à peu près 10-12 pages. Je les prendrai une autre fois, peut-être ce soir. 348 remarquez ceci. Un jour, à une vente aux enchères, on offrait un vieux violon. Vous avez entendu cela être raconté bien des fois. Un vieux violon. Et le commissaire-priseur a dit, « Combien me frotte-t-on pour ça ? Il se peut que je n'aie aimé le raconte pas tout à fait comme il faut, comme le poème. Il y a bien des années de ça, mais il me vient à l'esprit. Ils ont pris le vieux violon. Et il n'était pas très beau. Il avait l'air sale. Et tout. Il n'a même pas réussi à avoir une offre. Finalement, je pense qu'on lui a offert un dollar, ou quelque chose comme ça. 349 et il y avait là quelqu'un qui n'était pas d'accord qu'il se vende à ce prix-là. Alors il s'est avancé et il l'a pris. Il a promené ses mains dessus. Il a pris l'archet. Il l'a ciré de cellophane et il a joué une mélodie. Et, à ce moment-là, tout le monde s'est remis à pleurer. Ils n'avaient jamais de leur vie entendu une musique comme celle-là. Alors, le commissaire-priseur a dit, « Combien offre-t-on ? 352 000. 5 000. 10 000. Voyez, qu'était-ce ? La main du maître avait révélé ce qui était voilé dans le vieil instrument. 351 sesterces pareil maintenant. Le vieux livre, il est usé. On en a ri. On l'a brûlé. On s'en est moqué. Mais le moment est venu. Ils font une vente aux enchères dénominationnelles. Le Conseil mondial des églises. Ils le vendent, comme si ça n'y regardait personne. Une vente aux enchères dénominationnelles va avoir lieu. 352 mai, souvenez-vous, quelque part dans le vieux livre, il y a la promesse qu'un jour une main prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait le prendre et faire que la parole de ce livre, par le moyen d'un cœur prédestiné, pour la tâche pour laquelle il avait été fait, révèle les promesses qui y sont contenues. Ça peut avoir l'air, oh, d'une vieille bande d'exaltés, ou quelque chose comme ça, mais tout ce qu'il faut, c'est extraire la main du maître, la parole là-dessus, pour révéler cette parole. Et là, ça devient plus qu'un exalté. C'est un autre cas, à chacun de nous, n'est-ce pas, mes amis? Ce n'est pas un tas de fanatisme. Tout dépend de la main qui tient l'archet. Prions. Remarquez qu'il parle du violon. Juste un vieux violon. Il n'est mis par les pas d'un violon Stradivarius spécial, conçu par le maître constructeur Stradivarius. Il n'est mis par le que d'un violon ordinaire. Il semblait n'avoir rien de spécial, mais une fois dans de bonnes mains, waouh! Cela pouvait jouer, parce que ce n'est pas le violon qui produit de la musique, mais c'est le musicien. Et ce que cela montre, est que ce n'est pas le vase, qui était important, mais la main du maître sur le vase. Raison pour laquelle, il n'y a pas de grand dans ce message et que quelqu'un dise que William Branham était le plus grand messager qu'il y a jamais eu, cela montre simplement qu'ils doivent lire leur Bible avec le même esprit du Dieu vivant, dont ce prophète parle. Parce que la même Bible dit que chaque fils de Dieu doit venir de la même manière. Chaque fils qui vient à Dieu doit être premièrement châtié et éprouvé. Et dire qu'un messager est plus grand qu'un autre, vous n'y connaissez rien de celui qui utilise les messagers. Ils ont leur regard sur les vases et non pas sur le même Dieu qui utilise le vase. Il choisit aussi le vase à utiliser. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si Dieu est celui qui a commencé l'œuvre en vous, cela exigera que Dieu l'achève aussi. Si Dieu est l'auteur de votre foi, alors Dieu est aussi le consommateur de votre foi. Raison pour laquelle quiconque qui a été utilisé par Dieu, c'est qu'ils n'ont eu rien à voir avec ce que Dieu a fait au travers d'eux. Ils ont seulement senti le privilège de voir la main du Maître utiliser leur vase. Ils savent qu'ils n'ont mis sans que des témoins de sa main puissante. Même s'ils étaient des vases que Dieu avait choisis pour témoigner de sa présence à la race humaine. Comme William Branham le dit dans sa prédication, le sceau de Pâques 2 avril 1961 p. 121. Vous voyez, s'il est toujours le souverain sacrificateur, qui peut être touché par nos infirmités. Je n'ai jamais vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes un étranger pour moi. Je n'ai aimé connaît rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit, le Christ ressuscité, qui vient ici, et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, que mon esprit s'écarte maintenant et que son esprit entre alors, et vous faire savoir s'il est vivant ou pas. Mais il vous connaît. Mais il veut emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis heureux de le lui prêter, le lui donner, tout ce qu'il peut en tirer. Ainsi, oubliez cette notion selon laquelle William Branham soit le plus grand parce qu'il est juste votre frère. Et sortez de vos têtes que ce message Oméga est plus grand que le message Alpha, parce que l'alpha est devenu l'oméga. Le premier message est le même que le dernier. Dans sa prédication, le chef-d'œuvre 5 juillet 1964 p. 98. Frère Branham dit, la parole est devenue chair, exactement comme il l'avait promis dans Luc 17. Malachie 4. Et tout. Voyez, c'est exact. Apocalypse 171. Toute la véritable vie, qui était dans la tige, l'aigrette et la balle, se rassemble maintenant dans la semence, prête pour la résurrection, prête pour la moisson. L'alpha est devenu l'oméga. Amen. Le premier est devenu le dernier, et le dernier est le premier. La semence, qui était allée en terre, a suivi un processus et est redevenue la semence. La semence, qui est tombée dans le jardin d'Éden et qui est morte, est revenue. De cette semence imparfaite, qui est morte là-bas, on est revenu à la semence parfaite, le second Adam. La semaine prochaine, nous prendrons à partir d'ici et évoluerons plus dans cette histoire. Au sujet de la main du Maître ainsi, vous comprendrez davantage ce que notre prophète disait. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.